Cette semaine, on était au pays de la petite sirène.
Va te mettre au coin, 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 petit canard.
Encore une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde mes trois petits canards, comme ils sautent, sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin.
Salut Gabriel.
Salut Vicky.
Alors on était où aujourd'hui?
Aujourd'hui on était au musée Bourdel, qui se trouve près de Montparnasse, pour y voir l'exposition Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen, un Danois à Paris, 1892-1902.
Bon alors du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite bio de Niels?
De Niels, ce fameux Niels. Alors Niels Hansen Jacobsen, il est sculpteur, il est né au Danemark à Vejen, et c'est un de ces artistes du tournant du 19e siècle, parce qu'il naît en 1861, et il meurt en 1941. Donc il a vraiment eu un pied dans chaque siècle, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il est à Paris pendant 10 ans, de 1892 à 1902, et là il vit dans une sorte de colonie d'artistes, une sorte de grosse coloc, enfin plein d'ateliers qui sont les uns à côté des autres, qui ont été installés dans ce quartier, aujourd'hui près de Montparnasse, sur le terrain de l'ancienne exposition universelle. Et donc dans ces anciens pavillons, il y a un promoteur qui a installé des ateliers d'artistes. Et comme ça, il va croiser pas mal de ses compatriotes danois, qui sont aussi en goguette à Paris, mais aussi des Français, des Américains, pas mal de gens. Il se marie avec une peintre qui s'appelle Anna Gabriel. Et c'est vraiment le coin près de l'atelier du sculpteur Bourdel, qui est aujourd'hui ce fameux musée Bourdel. Voilà, d'où la présence de cette exposition ici.
Et du coup, le musée Bourdel.
Et ce musée Bourdel, c'est justement l'ancien atelier de Bourdel, donc ce qu'on appelle les musées ateliers de Paris. Vous avez plusieurs musées ateliers, qui sont ces anciens lieux où les artistes ont vraiment vécu et créé. Et c'est toujours des musées assez chouettes, et où vous avez qui sont faits autour d'un fond de l'artiste. Donc là, on a plein de sculptures de Bourdel. Vous avez aussi le musée Gustave Moreau, qui est absolument génial, avec plein de dessins de Moreau dans sa maison, avec un escalier absolument fantastique. Le musée Jean-Jacques Henner. Voilà un peu quelques-uns des autres musées ateliers d'artistes, qui sont des endroits que j'aime toujours beaucoup. Du point de vue muséographique, qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition?
Alors, c'est un peu... c'est pas génial. Voilà, pour être plus clair. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça génial. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. Déjà, c'est pas très bien éclairé. Les cartels sont pas toujours bien éclairés, on voit pas. En plus, ils sont souvent trop petits. Ils sont souvent mal placés. Notamment, il y a pas mal de vitrines qui sont au milieu de la pièce. Et les cartels sont collés sur le mur qui est en face. Mais du coup... les allers-retours, c'est pas pratique. Des fois, les cartels sont pas sous l'œuvre. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des erreurs de ce point de vue-là. Oui, voilà. Après, il y a des éléments par-ci par-là que j'ai pas aimé. Bon, après, alors toi, tu le justifies comme ça, le fait que l'expo, qu'il fasse venir Jacobsen au musée Bourdel, le fait que c'est des ateliers d'artistes les uns à côté des autres, et eux, ils le font tout de suite. Première salle, on a cette grande carte. Du quartier, et donc on nous montre l'adresse de l'atelier de Jacobsen, et on nous met un petit point pour nous dire que le musée Bourdel est là. J'ai trouvé que c'était un peu juste comme justification de
D'accord,
dire
ouais.
Bah oui, c'est d'un point de vue géographique, on est l'un à côté de l'autre. Alors certes, ils étaient contemporains,
mais... Oui, c'est vrai qu'à la limite, tu pourrais te dire, bon, on organise cette exposition dans nos locaux, mais on parle pas de Bourdel.
Oui, voilà, assumer, à la limite, assumer le fait que il n'y a pas de rapport avec Bourdel, mais c'est un sculpteur, voilà. Fin...
De la même époque, et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler. Mais c'est vrai que par rapport à l'endroit où on est, c'est de dire, bon, d'accord, c'est à deux pas, c'est plutôt comme ça que moi je l'ai vu, et que ça nous faisait un peu comprendre ce contexte assez particulier, tout de même, de ce Paris de la fin du siècle, où ils sont tous un peu les uns sur les autres, et du coup, ils s'échangent plein d'influences. J'ai pas vraiment vu comme une justification, et voilà, moi je trouve ça pas si mal. Et pour quand tu parlais de la muséographie, c'est vrai que les cartels, il y avait plusieurs problèmes. Sinon, j'ai trouvé que l'installation des œuvres en tant que telle était assez classique, c'était pas trop mal, on se baladait dedans.
Et puis, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette recherche Alors j'empiète un peu sur la deuxième partie, mais donc Jacobsen travaille beaucoup donc sur les contes, sur l'étrange, et il y a beaucoup de jeux d'ombre. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté dans les Lumières de jouer sur les ombres? Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'ombre sur les cartels, sur les œuvres. Alors,
c'est vrai.
Je me suis dit ça à un moment dans l'expo, parce qu'il y a vraiment une partie où c'est la part des ombres. Peut-être que c'est ça. Alors après, j'essaye peut-être de leur trouver des excuses aussi, hein, mais...
Non, c'est possible. Moi, ça m'a pas choqué. Alors, autant au Quai Branly, j'étais sortie avec la tête un peu...
Ouais. Mais tu sais, ce qui joue aussi, je pense, c'est... Moi, j'ai bien aimé l'espace en lui-même. Je pense que c'est un espace qui est neuf, parce que c'est du béton, ça a l'air d'être du béton armé, simple, basique. Et puis, par-dessus, on met ses murs. Là, c'était dans des couleurs assez sympas, pastel, bleu, vert. Mm. Pas bleu piscine. Et j'ai trouvé que les couleurs étaient assez douces et ça correspondait bien à l'environnement des œuvres. Ça c'était... Et je pense que c'est pour ça que ça nous a pas trop abîmé les yeux.
Et ce qui est au niveau plus de l'accrochage des œuvres, moi j'ai bien aimé, je trouve que quand les œuvres étaient, on en avait un petit peu partout, on se baladait bien dedans. Bon, voilà, classique. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a certaines œuvres où il y a vraiment une recherche muséographique, on va accrocher comme ça, ça va faire un effet de scéno assez impressionnant et on comprenait ce qu'ils avaient voulu faire et c'était pas mal. Et d'autres, par contre, notamment il y a une œuvre de Victor Prouvé, c'est un sculpteur de l'école de Nancy, et c'est une grosse coupe complètement décorative qui représente la nuit. Alors c'est une allégorie avec une figure féminine, et donc on voit là son visage de face, mais comme elle est placée dans un angle en diagonale, on voit pas ce qu'il y a sur les côtés de cet objet. Or, tout l'intérêt de cette coupe, c'est que justement on voit ce beau visage de femme, et que sur les côtés, il y a un peu tous les trucs dégueux et inquiétants qui se passent dans la nuit, à la fois des sortes de forêts inquiétantes, mais aussi des gens qui se font agresser, des choses comme ça. Je crois que c'est un peu indiqué dans le cartel, mais surtout on peut pas voir parce que c'est vraiment coincé. Voilà, c'est un petit peu bizarre, sachant qu'ils avaient vraiment réfléchi pour l'exposition d'autres objets.
Après, les cartels, c'est pompeux. Hein. Oh là là, ouais. Les cartels...
Pas tous. Textes. Il y en a qui sont très bien.
Ouais, mais il y en a...
D'autres, des points de suspension, en voulez-vous, en voilà. Des accumulations d'adjectifs plus tirés par les cheveux les uns que les autres.
Des listes de synonymes.
Ouais.
Mais par contre, un truc que j'ai bien aimé... C'est que donc il y a pas mal d'œuvres de l'artiste qui sont inspirées des contes d'Andersen. Mm. Et ce qui était bien, c'est que parce que donc chaque partie c'était plus ou moins une partie correspondait à une œuvre de l'artiste. Et
T'as vu ça comme ça?
Moi j'ai vu ça comme
d'accord,
ça.
Ouais. Ouais.
Enfin ouais, moi j'ai trouvé que ça faisait ça. Et du coup il y a plusieurs œuvres qui renvoient au conte d'Andersen. Et du coup ils avaient mis des extraits du conte, enfin un résumé du conte.
Oui.
Et du coup, ça, je trouvais que c'était bien,
c'était bien.
Sur les panneaux. Mais les panneaux, pareil, je trouve que c'est un poil petit. Après, il n'y avait pas trop de monde, mais on peut vite être coincé devant les panneaux.
Et surtout, il faut les repérer, il faut foncer les lire. Parce qu'ils ne sont pas toujours au début des parties, à l'entrée de chaque partie thématique. Il faut foncer vers le panneau, parce que sinon, vous arrivez dans une partie, vous ne comprenez pas trop ce que les œuvres font là, pourquoi est-ce qu'on a exposé ça à ce moment-là. Et en fait, ah oui, mon accord, et vous pigez quand vous êtes arrivé devant le panneau.
Ouais, et je trouve que les panneaux se suffisent, on n'est pas obligé de lire les cartels si
non,
on n'a pas envie.
Exactement.
Les panneaux sont très bien, ils expliquent bien la salle. Faut un peu s'accrocher pour les lire quand même.
Oui.
Mais si on lit pas les cartels, c'est moins ennuyeux, on va
oui.
dire. Si on lit que le panneau. Et alors, ces œuvres, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors moi, c'est une période que j'aime énormément. Ce tournant de siècle, c'est ce qu'on appelle le mouvement du symbolisme. Ça s'étend à toute l'Europe. C'est tout un groupe d'artistes qui veut vraiment que l'art puisse montrer les choses qu'on ne peut pas voir. C'est pas du tout un art de la réalité. On va pas peindre comme Monet les bords de Seine et les guinguettes qui s'y trouvent, mais au contraire, on peint les états d'âme, les monstres, et le symbolisme, ça se retrouve en peinture, mais aussi en sculpture, en littérature. Le symbolisme, c'est Baudelaire et les fleurs du mal, c'est Rimbaud, ça touche à plein de choses, et c'est aussi un moment où les artistes s'essayent à de nouvelles techniques de création aussi, pour essayer de faire passer ces mêmes thèmes. En fait, on retrouve des thèmes qui vont traverser plein de techniques de création, et même plein de domaines artistiques différents, même en musique également, enfin ça peut être hyper kitschoui, mais moi je trouve ça absolument génial. C'est très fantastique, et là on touche vraiment, enfin ils nous disent de le texte d'introduction, on touche à un fantastique noir, un peu morbide, inspiré aussi justement des contes d'Andersen, comme tu le disais juste avant. Et on trouve dans cette exposition énormément d'œuvres de beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Odilon Redon, Jean Cariès, enfin vous avez des choses vraiment super. Mais justement,
c'est là le
justement,
problème.
C'est le problème, c'est que tous ces noms-là, on a beaucoup d'œuvres d'artistes qui ne sont pas Jacobson, alors que nous, notre expo s'appelle Jacobson.
C'est ça, c'est que l'expo, c'est pas l'art symboliste à Paris entre 1892 et 1902.
Ou alors le nom de cette colonie d'artistes, parce que c'est vrai que je crois que les artistes qui sont exposés oui. dépassent aussi un petit peu... Par exemple, il y a Bourdel. Antoine oui. Bourdel est là tout le temps
oui.
aussi.
Oui.
Au point où on se dit, ça fait un petit peu, on a sorti ce qu'on avait nous dans les placards et on veut s'exposer nous-mêmes.
Bon, chausse-pied, quoi.
Alors que lui était pas dans cet atelier-là. Alors, je sais pas, ça aurait pu s'appeler quelque chose comme, je sais pas, Jacobsen et ses amis. Enfin, pas ça, parce que ça fait un peu oui-oui.
Ouh.
Mais, non, mais petit ours au brun. Mais un truc du style, ouais, où le...
Oui, je suis d'accord avec toi. Ou alors, oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est Jacobsen.
C'est ça.
Le titre de l'expo.
Alors qu'on nous parle, de pas mal de ces potes danois. Et c'est chouette aussi, tous ces étrangers
oui.
qui viennent à Paris, qui sont influencés par l'art nouveau, par la littérature du coin. C'est hyper sympa, mais on parle tellement aussi des autres. T'as compté, il y a combien d'œuvres de Jacobsen dans les
Une trentaine.
Et vous avez beaucoup d'œuvres, hein, c'est pas une expo
oui,
qui
oui.
se finit en 20 minutes. Donc c'est étonnant. Ça fait que le titre est vraiment mensonger. Mais l'expo derrière, j'ai quand même beaucoup aimé l'expo
oui,
en tant que telle.
Oui,
j'ai
oui,
beaucoup
oui.
aimé voir tout ce que j'ai vu, ouais. C'était super.
Mais moi j'ai senti que ça allait être ça dès la première salle. Parce que dès la première salle, le premier panneau explicatif, donc on nous fait un petit
topo sur sa vie, non ?
Petit topo sur sa vie. Et après, on nous cite 15 artistes. Il y a une liste d'artistes qui étaient dans l'atelier avec lui, et là je me suis dit... Mais ça sent tellement qu'ils vont tous nous les sortir. Parce qu'ils vont pas nous citer
ouais.
des artistes comme ça, pour le plaisir de nous citer des artistes qui en plus sont pas forcément connus. Toi, tu connais parce que
oui,
c'est
oui.
ta période. Mais enfin, je veux dire, Jean Cariès, c'est quand même pas,
ouais.
Et quand j'ai vu ça, je fais, ouais, non, mais c'est sûr que ça va être.
Surtout qu'en plus, c'est bizarre parce que toute l'exposition est construite là autour sur ces thèmes. Tu parlais d'Anderson, mais voilà, on a le thème de la petite sirène. Mais c'est ça aurait pu être un truc vraiment très chouette sur le symbolisme et les thèmes, les mêmes thèmes qui les traversent tous, et c'est très très cool. Mais Jacobsen est juste une sorte de prétexte, en fait.
C'est drôle parce qu'à la fois c'est un prétexte et à la fois c'est la base. Parce que, en fait, moi ce que je disais, ce que je trouvais, et toi ça t'avait pas forcément marqué comme ça, mais chaque partie en fait est reliée à une œuvre de Jacobsen.
Oui, soit une œuvre, soit un truc qu'il a fait. C'est vrai
oui.
qu'il a un avancement de sa carrière, c'est vrai. Mais à chaque fois, par contre, cette œuvre-là est prétexte à montrer
voilà,
que
c'est
les
ça,
autres font
c'est, ça
et
part,
à le relier
voilà,
à lui.
Ouais. Moi, Jean Cariès, c'est bon, hein. J'en ai marre. Hein. Non, mais la porte monumentale, là, alors il a créé une porte...
Mais il a fait que ça, le pauvre. C'est un sculpteur qui a fait surtout de la céramique, et vous pouvez voir son travail au Petit Palais. Et il a fait pour une riche américaine qui lui commande quelque chose qui s'appelle la porte de Parsifal, qui est une sorte de grande arche en céramique. En céramique vernissée, avec des monstres un peu médiévaux, fantastiques. Et il est mort avant d'avoir terminé, donc on a juste des morceaux de ce truc-là. Et c'est un peu le grand œuvre de sa vie, en fait. Il a fait ça.
Oui, et puis là, dans l'expo, il y en a 50 morceaux.
C'est ça,
quoi, hein.
Il y a
des bon.
Petits bouts qui sont un peu... Mais c'est très fun, j'aime beaucoup.
Mais non, mais bon. On voit que le musée ouais. Bourdel fait partie du réseau...
Oui, c'est vrai aussi.
Voilà, par les musées.
Ouais. Mais il y a des très belles choses aussi. Il y a des œuvres que j'avais vues déjà tant à gauche ou en reproduction. Voilà, les œuvres en tant que telles m'ont beaucoup, beaucoup plu.
Oui, et oui, les œuvres de Jacobsen sont assez impressionnantes
aussi,
quand même. Hein.
Ouais.
En taille, en la façon aussi dont l'effet que ça renvoie,
ouais.
C'est assez impressionnant.
Parce qu'il fait soit quelques grandes sculptures qui sont assez incroyables, il y en a deux surtout qui sont très grandes, et il a fait beaucoup beaucoup de céramique.
Voilà.
Et là, on arrive à une partie qui était super bien.
Ah ouais, ça, moi, c'est toujours des parties, je trouve que c'est toujours très intéressant.
C'est très intéressant, mais je trouve que c'est toujours un peu casse-gueule pour les introduire dans une expo. C'est qu'on te parle de céramique. La céramique, c'est quand même un procédé assez complexe. Ça demande des cuissons spéciales pour les couleurs. Les couleurs en céramique, c'est ce qu'on appelle les glaçures ou la vitrification. C'est un machin que vous rajoutez par-dessus. Les couleurs, elles se font en obtenant avec des poudres, avec des pigments souvent qui sont issus de métaux qui vont avoir une couleur différente de leur couleur de base, c'est une réaction chimique qui se fait, donc tout ça c'est quand même assez complexe, et ils font toute une partie technique qui est très bien faite,
oui.
qui en plus est installée dans un petit angle, donc si vous avez envie de perdre 20 minutes là-dedans, vous ne dérangez personne à tout lire pour tout bien comprendre. Il y a une vidéo à la fin qui est très bien faite, mais je trouve que même sans la vidéo, on comprend très bien.
Ouais, mais la vidéo, c'est dommage, je la trouve, l'écran est un poil petit, je trouve.
Peut-être, mais c'est vrai que ça correspond avec ce petit espace.
Oui.
Ils vous ont fait des pots à chaque stade de la création d'une céramique. On a les pigments sous forme de poudre pour voir à quoi ça ressemble. On a ensuite un nuancier pour garder les différents bleus que ça donne selon les métaux dont sont issus les pigments. Et on a surtout les résultats des fouilles archéologiques qui ont été faites sur l'atelier de Jacobsen à Vejen, au Danemark. Et ils ont récupéré le fond de son four avec plein d'éléments qui nous montrent un peu à quel point c'est galère de faire un pot, de devoir gérer la chaleur, pas que vos pots se cassent la gueule dans le four. Enfin, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on gère les couleurs et tout ça? Et il y a même des trucs qu'on peut toucher pour comprendre ce que c'est la différence entre les pots. Voilà. Non, mais c'est con, mais c'est vachement bien.
Alors, par contre, vous touchez bien les petites boules de terre cuite.
Où il y a écrit toucher.
Mais vous touchez pas les masques de bourdelle juste à côté parce que c'est hyper tentant.
Ouais, juste à côté. Les toucher. Ils ont accroché quatre autres machins, puis moi j'étais là avec la main levée en mode ah bah c'est la suite. Ah non, non, non. Ça c'est aussi une œuvre, on tâte pas.
Et oui, je voulais revenir un peu sur le choix en fait du musée Bourdelle de bah du coup de s'intéresser à Niels Hansen Jacobsen, parce que en fait je pense que c'est un peu peut-être ça aussi l'idée derrière. C'est un peu cette tendance qu'ont des musées un peu plus petits avec un peu moins de moyens, notamment tout le groupe Paris Musée, donc Petit Palais, Musée Bourdelle, qu'est-ce qu'on a, Musée Carnavalet, bon, qui est fermé.
Qui sont des musées d'une certaine importance, mais c'est pas le Louvre.
Oui, voilà, qui est, voilà. Donc ont des budgets un peu plus restreints. Et du coup, ça fait quelques années qu'ils se lancent dans des expos sur des artistes un peu moins connus. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher dans le sens où c'est les œuvres seront plus facilement prêtées par les autres institutions. Et
les prix d'assurance aussi des œuvres-là sont moins élevés.
Parce que c'est des œuvres qui sont moins demandées. Mm. Donc, enfin voilà. Alors normalement, dans les règles de l'art, normalement une exposition, les prêts d'exposition sont gratuits. Mais on sait que voilà, il y a toujours.
Oui, mais encore faut-il que le musée en face accepte de vous le prêter. Voilà, là, par exemple, pour l'exposition Léonard de Vinci, il y a eu du bisbise avec l'Italie parce que les Italiens ne voulaient pas prêter plein de choses. Bon, parce que voilà, on peut comprendre aussi oui, éventuellement. Voilà. Mais oui, puis après, ça permet aussi, encore une fois, sans être de mauvaise foi, de découvrir le travail d'artistes qu'on connaît un peu moins. Et là, on a encore une fois la preuve que, malgré le titre qui nous met en erreur, ça peut faire des choses vraiment très chouettes.
Et puis, c'est aussi un moyen pour des plus petits musées avec des plus petits budgets de quand même renouveler aussi leurs visiteurs en proposant des expositions temporaires, oui. Même d'artistes moins connus.
On a des œuvres préférées. Alors moi, j'avoue qu'au début, je me suis dit, parce qu'il y a pas mal d'œuvres qui m'ont bien plu, et j'étais là, ah non, mais bon, je vais pas mettre ça, c'est pas des œuvres de Jacobsen, je me garde pour une œuvre de Jacobsen. Mais comme de toute façon, la majorité, c'est pas lui, et je me permets de parler d'autre chose que de lui.
Permets-toi.
Oui, j'attends pas que tu me demandes si j'ai une œuvre préférée, hein. T'as vu, j'y suis allée toute seule.
Le suspense, c'est
je suis une fille grande et indépendante. j'ai beaucoup aimé des pots de Jean Cariès. Voilà, des petits pots. Ils étaient hyper cool. On arrive au début, le mec il a fait des pots. Des pots ronds qui sont cabossés. Il appelle ça des pots cabossés, comme si c'était des pots en métal qui avaient pris un ion, alors qu'en fait non, c'est de la céramique. Et j'ai trouvé ça. Franchement, j'ai trouvé trop cool.
Non, mais moi, elle m'a énervée cette vitrine.
J'ai trop aimé.
Mais non, mais c'est chiant parce que il y a le texte qui
t'explique. C'est juste que j'ai cru que c'était Jacobsen, voilà. Et après je vois que c'est pas lui.
Voilà, mais, exactement. Mais ça, oui. T'as le texte qui t'explique que Jacobsen il se met à faire des pots en grès. Et là, t'as cette super vitrine avec 4 pots. Je me dis waouh, c'est génial. Jacobsen il a fait des pots comme ça. Et là, je vais regarder les cartels. Ah, Cariès.
Et en fait, Jacobsen, il est dans la plus grosse vitrine qui est derrière, mais c'est vrai que moi, je pensais que
ouais,
c'était...
Ouais, mais là, c'est quand même la vitrine
c'est
du milieu.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, alors, c'est quoi ton œuvre préférée?
Ah, moi, c'est bien cucu. C'est une broche.
Ah, oui.
C'est tout petit. C'est la broche Apparition qui a été réalisée par Eugène Grasset pour la maison de joaillerie Weber. Et en fait, c'est minuscule, mais c'est super beau. On a un visage de femme, les yeux fermés, très blancs, les cheveux dorés. Puis derrière, on a une espèce de figure de fantôme. Enfin, c'est pas un fantôme, c'est plus un monstre qui entrait, en fait, le visage, le premier visage tout blanc. Donc lui, il a le visage doré, les cheveux bleus. Enfin, voilà, il y a un peu cette opposition entre ces deux figures. Et puis l'ensemble derrière, décoratif, c'est joli.
Bon,
d'accord. Voilà. Ça m'a tapé dans l'œil. Que dans un, parce que c'est tellement petit que du coup. Mais voilà. Info pratique. Le musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, dans le 15e, derrière la tour Montparnasse.
Sortie de la station de métro.
Montparnasse.
Ça dure du 29 janvier jusqu'au 31 mai 2020. C'est ouvert de 10h à 18h du mardi au dimanche, fermé lundi et bon, certains jours fériés. Ça coûte 9€ en plein tarif, 7€ en tarif réduit et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Et si jamais vous avez envie d'aller voir le reste des collections, des collections permanentes hors expo, c'est gratuit aussi, pour tout le monde.
Parce que c'est le réseau Paris Musée. On y va?
Ah oui, on y va. Moi ouais. J'y vais.
Oui, toi t'y vas. Moi aussi j'ai bien aimé. On y va avec qui?
Ah, on y va avec la petite nièce encore un peu émo.
Ah là là, ses neveux émo.
Ah oui, c'est vrai qu'on en a plein. Bah, débrouillez-vous, trouvez. Allez, faire une razzia dans
ouais,
un
avec
lycée.
Les parents, hein.
Oui, oui, oui.
Peut-être tu veux pas y aller avec tes roms,
toi. Si, on peut. Bon, prenez quelqu'un sous le bras et allez-y.
Ou allez-y tout seul.
C'est chouette. Oui, c'est vrai, pour aller méditer sur, comme après Boltanski, sur la vie, ouais, le sens de la propos.
La vie, c'est méandre.
Le sens du vent.
Bon, ben voilà,
le podcast qui tousse à sa fin. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Instagram, laissez-nous des messages, allez liker nos photos, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Retrouvez-nous sur iTunes, Podbean, SoundCloud,
Spotify,
toutes les bonnes applis de podcast. On vous dit à bientôt.
À bientôt.
Salut Gabriel.
Salut Vicky.